Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous sommes au premier vendredi du mois. Pourquoi signalons-nous dans notre piété chrétienne le premier vendredi du mois? C'est parce que notre Seigneur, après ce conseil divin, cette décision de l'incarnation, de venir à l'aide d'une nature humaine prise entre ce monde créé et le monde spirituel, de celui des esprits, de celui des anges, qui pour leur part avaient déjà passé l'épreuve du véritable amour de Dieu, du véritable amour même entre eux, car on ne connaît pas assez les relations qu'ont les anges entre eux, la manière dont ils vivent leur connaissance, leur intelligence, leur volonté, leur charité, charité mutuelle, et pas seulement adoration et obéissance, mais une vie, une vraie vie spirituelle. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque Dieu a pris la décision de créer cette nature humaine, lui qui connaît le futur, il savait que nous aussi, nous passerions par l'épreuve de cette intelligence, de la vérité, de la bonté, de la véritable charité. Et il savait que dans la puissance de notre esprit, nous serions tentés par le choix de déterminer nous-mêmes, comme Dieu, ce qui est vrai ou faux, ce qui est bon ou mauvais, ce qui est beau ou ce qui est laid. Voulant être des dieux, voulant être tout-puissants. Ce péché originel, qui nous semble lointain, qui nous semble même parfois injuste, pourquoi en un seul péché, toute l'humanité serait entrée dans un chemin de mérite et d'épreuve? Eh bien, c'est mal connaître justement la capacité de notre nature. C'est mal connaître l'âme. C'est mal connaître ce qu'est un esprit. C'est mal connaître ce qu'est un ange. Ce sont des êtres très puissants. Nous sommes des êtres très puissants. Il est sûr que nous voyons de nos jours que notre corps, lui, est bien faible et bien fragile. Cependant, nous avons une âme immortelle. Nous sommes à nous-mêmes des mondes, un monde particulier, puisque pour une seule âme, Dieu, dans sa charité, serait venu pour lui offrir le salut, pour la sortir du péché. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque l'humanité a choisi le mal, la puissance, l'indépendance absolue, elle a été capable de faire souffrir par la jalousie et par l'orgueil et par la violence des générations et des générations. Et c'est donc dès le début que Dieu devait nous arrêter. Il avait bien dit à Adam et Ève, dans cette première union d'un homme et d'une femme, dans ce premier mariage, il leur avait dit: si vous choisissez vous-même, si vous prenez de ce fruit, de l'arbre de la science du bien et du mal, vous mourrez de mort. Et donc la mort est entrée dans le monde par cette volonté faussée de l'homme de choisir le mal plutôt que le bien, de choisir la souffrance, de choisir la querelle, la dispute, de choisir l'insignifiant, de choisir tout ce qui a fait souffrir à travers les siècles. alors que nous avons la capacité du bien dans la vérité, dans le vrai et dans la beauté. Alors même que nous savons que cette vieillesse, que ces maladies ne sont pas naturelles, que Dieu nous a créés pour l'immortalité, que Dieu nous a créés pour être heureux, et même en cette vie terrestre. Dans la vie éternelle, Dieu nous a révélé qu'il y aura une résurrection des morts, résurrection des corps. Mais même s'il n'y aura plus de nouveaux enfants, il y aura une vie corporelle qui accompagnera cette vie spirituelle, ce bonheur de voir Dieu, cette vision béatifique. Nous pourrons nous voir à nouveau avec des yeux, nous pourrons nous toucher avec des mains, nous pourrons revoir à travers notre nature humaine et notre corps humain un monde rénové, recréé, après le feu final. Pourquoi ce feu et pourquoi cet apocalypse? Parce que Dieu ne pourra plus supporter depuis des siècles que ce péché, que cette haine, que cette violence et que cet égoïsme profond abîme la nature humaine, abîme l'homme et la femme, abîme la famille, abîme les enfants. Et à un moment donné, la colère de l'agneau éclatera, parce qu'il y aura trop d'injustice, mais au sens trop de péché. Et alors, le Christ est venu, il a choisi une femme, il l'a préservée de cette absence de grâce, et il en a fait l'Immaculée Conception. Nouvelle Ève, sans péché. Et elle n'a pas péché. Les théologiens peuvent se disputer tant qu'ils veulent. La Vierge Marie a été libre de péché. Sinon, elle n'aurait pas été une femme. Et elle n'a pas péché. Elle a toujours été fidèle à la grâce. Elle en a d'autant plus de mérite. Immaculée Conception et Nouvelle Ève, elle n'a pas cédé à la tentation. Elle a toujours été vraie, elle a toujours été humble tout en étant forte et avec un tempérament authentique. Cette femme qui objecte à l'archange Gabriel qu'elle s'est consacrée à Dieu dans son mariage joséphin, comme on le dit de nos jours, avec cet accord entre Joseph et elle pour vivre dans la prière. Et pourtant, ce mariage sera fécond. Et quelle fécondité, puisqu'elle va engendrer le Messie, le Sauveur attendu depuis tant de siècles. Eh bien, ce Sauveur a été un tout petit bébé. Il est né d'une vierge. Saint Joseph a été son père adoptif. Quel cœur de père choisi par Dieu pour veiller sur son propre fils. Et Saint Joseph, que nous avons quitté tout en le gardant toujours dans ce mois de mars, vient de nous offrir la fin de ce carême. Dans sa prière et sa protection pour la Sainte Église. Et il nous dit cet enfant sur lequel il a veillé. Et ainsi, cet enfant qui a grandi a pris sur lui notre vie humaine. Il est petit bébé, il a été un jeune enfant, un adolescent, un homme. Et tout cela pour nous, avec un cœur qui bat, un cœur sacré. Et il a demandé à sa mère, oh, elle le savait par toutes les prophéties du peuple juif, de bien vouloir accepter son sacrifice pour ses frères et sœurs. Et il lui a demandé d'être notre mère. Alors, en ce premier vendredi du mois, eh bien, nous nous souvenons qu'en 1689, il est apparu à une sainte femme pour lui dire qu'il fallait dire au roi de France de mettre ce Saint-Écœur sur les drapeaux de son pays. Et cela ne s'est pas fait. Un siècle plus tard, nous avons vécu cet abandon de la foi. Il y a eu restauration, mais rien n'a été pareil. Jusqu'à ce qu'en 1917, ce cœur immaculé de Marie nous demande à nouveau une consécration pour que nous puissions sortir du péché et vivre en paix et vivre dans la justice et dans la vertu et dans la vérité. Quelques années plus tard, c'est l'enfant Jésus, c'est Jésus sous l'apparence de l'enfance qui dit à sœur Lucie de Fatima, « Ferez-vous comme le roi de France ? Vous n'écoutez pas ce que je vous ai demandé. Je veux que le cœur immaculé de ma mère soit honoré pour vous sauver. Car votre ingratitude, votre insouciance, votre indifférence blessent mon cœur et blessent le cœur de ma mère. Ainsi donc, si vous-même, aujourd'hui, vous voulez vous unir, c'est parce que vous croyez en un Dieu qui est Père et qui bénit ses enfants. Vous croyez en un Dieu qui nous a donné sa parole, son Verbe éternel, son Fils. Et que cet engendrement, eh bien, vous voudrez y participer en demandant à Dieu de pouvoir avoir des enfants pour créer, procréer des êtres nouveaux qui pourront aimer Dieu. Et vous aimez un père et une mère qui pourront avoir non seulement la foi en ne croyant pas qu'ils sont du hasard et du temps ou de la planète Terre, mais qu'ils sont nés d'un amour et qu'ils sont dans l'espérance, toujours portés vers le futur, toujours portés vers la vie éternelle. Et que rien ne peut nous retirer cette espérance, quels que soient les événements à venir, quelles que soient les conditions dans lesquelles vous vous mariez, qui semblent étranges, mais le mariage, c'est toujours le mariage. Le mariage, c'est l'échange des consentements. Le mariage, c'est se donner l'un à l'autre. Alors, bien sûr, il faut se réjouir. Bien sûr, il faut faire la fête. Bien sûr, vous essayerez de faire une belle messe d'action de grâce en octobre, mais le mariage sera toujours le mariage. Le grand mariage et les noces de l'agneau, ça a été l'incarnation. Ça a été dans le village de Nazareth. C'est un ange qui a été le ministre de Dieu. C'est Gabriel qui a été présent pour l'échange des consentements. Il a présenté le consentement de Dieu et la demande en mariage de Dieu. Et la Vierge Marie, elle, a donné son fiat. Elle a accepté ce mariage. Et ainsi, le Verbe s'est fait chair. Il s'est marié avec cette nature humaine pour toujours. Aux noces de Cana, c'est lui qui est l'époux. Ce n'est pas le couple. Voyez, le véritable mariage, eh bien, au-delà de toute fête humaine. Le maître du festin, et je pense que vous ne ferez pas un grand festin tout à l'heure, le maître du festin reçoit ce vin demandé par la Vierge Marie, qui est l'image de l'Église, de l'épouse du Christ, en ce moment-là. Elle demande du vin, le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Elle demande ce précieux breuvage capiteux qui fait tourner la tête et qui rend joyeux. Elle le demande à son fils et son fils lui répond « Elle, comment voulez-vous qu'il parle mal à sa mère ? Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ? Mon heure n'est pas encore venue. » La Vierge Marie, non seulement elle a accepté l'incarnation, Mais à ce moment-là, aux noces de Cana, elle demande d'accélérer, de que plus rapidement le salut puisse être offert aux hommes. Et Jésus accepte, parce que la Vierge Marie se tourne vers les serviteurs et leur dit « Faites tout ce qu'il vous dira. Puisez de l'eau, cette eau du baptême, cette eau qui nous purifie, cette eau qui nous fait vivre, mais cette eau aussi qui nous noie et qui nous fait mourir. Et lorsqu'on sort de cette eau, de ces eaux de la mort, eh bien nous respirons à nouveau. C'est Pâques, c'est le véritable passage de la vie à la mort. » Alors, Jésus leur demande de puiser l'eau et d'apporter cette eau au maître du festin. Et le temps que l'eau soit portée au maître du festin, Dieu va créer tous les éléments du vin dans l'eau. C'est une création de matière, c'est une autre création. Et là, il goûte ce vin délicieux, incroyable. Et il se tourne vers le couple et il leur dit, d'habitude dans un repas de noces, on offre le bon vin au début. Et ensuite, quand les gens ont la langue chargée et qu'ils ne distinguent plus, on leur donne un vin moins bon. Mais toi, tu as réservé le meilleur vin jusqu'à la fin. Vous pensez bien que c'est à Jésus qu'il fait cette félicitation, cette louange. Et vous pensez bien que c'est à Dieu qu'il fait cette louange. Alors, nous-mêmes, nous devons réserver pour la fin ce meilleur vin. Et ça sera son sang, le sang de l'agneau, le sang du Christ, qui va nous sauver et qui va nous réjouir après cette semaine sainte que nous allons vivre avec une épreuve toute particulière où Dieu semble nous cacher sa face. Et pourtant, dans l'esprit de résistance catholique, aujourd'hui, par rapport à la loi républicaine, eh bien nous sommes ici, nous célébrons une messe, nous célébrons un mariage, et ce goût de l'interdit par rapport aux fausses lois, aux lois qui ont détruit la famille et qui ont détruit la vie, eh bien tout cela rayonne de cette vérité, de cette espérance et de cette charité. Que vous puissiez, dans les semaines qui suivent, vivre ces moments étonnants, mais dans le mariage, parce que vous vous serez donné l'un à l'autre, et votre charité ne pourra plus être altérée. Vous aurez le sacrement du mariage, vous aurez la force du Christ, vous aurez la prière de la Sainte Église, que la Vierge Marie symbolise parfaitement. Dans le corps du Christ, dans l'Église, Jésus est la tête, comme l'homme doit être la tête. Et Marie est le cou par lequel tous les influx de la tête et toutes les grâces venant de Christ donnent vie à tous les membres du corps. Eh bien, quel que soit votre tempérament, et on peut en avoir, eh bien, vous devrez faire une seule chaîne. Vous devrez bien vous comprendre. L'un et l'autre. Et puis, n'ayez pas peur de donner la vie. Faites confiance dans la grâce de Dieu. Surtout dans ces temps particuliers. Alors que le cœur sacré de Jésus, que le cœur immaculé de Marie, que Saint Louis, Sainte Jeanne d'Arc, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, les saints François et Jacinthe de Fatima, Sainte Anne, Saint Alexandre et tous les saints patrons de ceux qui sont ici réunis puissent vous protéger de leur instante prière auprès de ce Dieu Tout-Puissant qui va opérer en vous l'accomplissement de son plan divin lorsqu'il a dit à Adam et Ève « Croissez et multipliez ». Enfants de Dieu, enfant de la grâce, enfant de cette assemblée des saints, de ce corps mystique du Christ qu'est l'Église, que celui qui va, dans une semaine, offrir ce corps et ce sang pour notre vie éternelle, puisse vous accompagner toute votre vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.